Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café!
Ou d'autres!
Mon accent était out of control! Ah, je suis votre animatrice, Catherine! Voici bienvenue à, c'est une super bonne phrase, à votre podcast bimensuel de crime et de café, et de crime québécois surtout. C'est ça, je suis votre animatrice, Catherine, et comme d'habitude, je suis avec Audrey. Comment ça va, Audrey?
Ouais, ça va, le code aujourd'hui est terrible, mais ça va aller, ça va aller.
T'aimes-tu mon train wreck of an introduction?
Ah, c'était magnifique! J'adore ça!
Super! On va varier ça un peu, s'enfarger dans nos mots, puis éclater de rire pour aucune raison.
Correct, ça montre notre belle humanité. Là. On n'est pas parfaites, guys, on n'est pas parfaites.
Ben, je pense qu'ils savent.
Quoi, parce qu'on poste des vidéos pas de son?
Oui! Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un café et aussi de choses absolument épouvantables.
Donc oui!
Est-ce que tu veux révéler tout de suite de quoi on va parler avant que je présente le café?
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas que j'ai l'impression qu'on ne connaît pas tant que ça et pourtant c'est vraiment terrible. Alors, j'aimerais vous parler de la fois que la CIA ont fait des tests sur des gens dans un institut psychiatrique à McGill. Alors, je vais vous parler du Allen Institute Memorial et des expériences un petit peu louches du Dr. Ewan Cameron.
Dépinage!
Eh bien, strapine, ça va être toute une histoire.
Oui, ça aurait pu être comme vraiment le fun, puis tu sais, le monde, il développe des pouvoirs psychiques, comme dans...
Ça devient les X-Men.
Dans Stephen King, ou comme, ouais, ça devient les X-Men, ou comme... Non, c'est pas ça qui est arrivé, en fait, au Allen Institute Memorial.
Non, c'est juste bien triste, ça a juste brisé des familles puis ma joie de vivre.
Oh, mais moi j'ai une première question à laquelle tu n'auras pas la réponse, juste pour te derail un peu. Pourquoi c'est le Allen Institute Memorial? Pourquoi c'est pas juste un institute ou juste un memorial? Un memorial de quoi?
Je sais pas, parce qu'en fait, avant ça s'appelait Ravenscrag! C'est le manoir d'une famille très riche qui l'ont donné à McGill.
Non, ça m'étonne pas.
Pour qu'ils puissent expand leur campus, parce que, of course, McGill, c'est toujours des riches qui leur donnent
ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. Comme s'ils avaient besoin d'avoir des dons, les gens de McGill.
Nos auditeurs qui vont à McGill, c'est des taquineries, on vous aime.
Non, on vous aime pas. Non, on vous aime!
Mais non, en fait, c'était avec l'hôpital Royal Victoria, puis j'ai vraiment aucune idée pourquoi ça s'appelle le Allen Institute Memorial. J'ai littéralement rien trouvé, même sur la page Wikipédia, c'est même pas dit.
Mais c'est drôle, c'est comme, c'est comme si t'avais, je sais pas, quelque chose qui est un séminaire de collège d'université. Tu sais, il me semble que c'est comme trois affaires, tu sais.
Oui.
Pourquoi c'est l'Institute et le Memorial en même temps? Pourquoi c'est pas juste le Allen Memorial? Et ça Memorial quoi?
Idée. Si vous le savez, écrivez-nous un peu de crime à tedgmail.com.
Aujourd'hui, on vous présente un café.
Yes, sir.
Donc là, la dernière fois, je vous ai présenté ma tasse préférée parce que j'étais un petit peu tannée. Parce que les cafés que j'ai reçus récemment du Roasters Pack, ils étaient pas incroyables. Faut partir comme ça avec le disclaimer. Il faut être honnête. On peut pas juste dire tout le temps que tous les cafés sont bons, là.
Il y en a des bons, il y en a des moins bons.
Le monde vont penser qu'on a pas de discernement, là.
On en a.
Mais il y en avait un que c'est comme, tu sais, sous toute réserve, c'est pas spécial que ça, si t'as le goût de boire quelque chose qui est vraiment acide. Fait qu'il faut juste avertir le monde que c'est vraiment acide, OK? Avec les notes que je vais te donner, là, tu t'attendrais pas à ça. C'est pour ça, c'est bien surprenant. Ça s'appelle le café Covalent. C'est le covalent de 94 Celsius Coffee Roasters qui vient de Montréal. Donc, pourquoi c'est pas en français? Loi 101, je le sais pas. Donc, Celsius 94 rôtissoir de café.
Rôtissoir de café.
Torréfacteur. Ma joke préférée. Torréfacteur de café. OK. Donc, c'est un café qui vient du Brésil et du Pérou et il a des notes de chocolat noir, d'amande et de cassonade. Fait qu'avec ça, là, je m'attendais pas à ce que ça goûte les fruits. Mais ça goûte les fruits.
Je pense que c'est la cassonade qui vient.
Ça goûte la... Non, mais c'est très, très, très acide. C'est vraiment pas... Okay. C'est pas un café de torréfaction foncée. C'est une variété de bourbon puis de bourbon jaune de café. Puis je pense que ça aussi, ça fait une différence. Le bourbon, yellow bourbon...
D'habitude, les bourbons, c'est des cafés assez beurre, pourtant,
oui.
Comme, au niveau du
mais
goût.
Non, ça l'est pas. Ce café-là, il est très pâle. C'est pas de la torréfaction foncée. C'est pas un café pour le matin. C'est vraiment un café acide. Si vous aimez ça, les cafés qui ont comme des notes acidulées, je vous conseille celui-là. Mais si vous vous attendez à boire du goudron, du Tim Hortons avec du lait dedans le matin, vous allez faire le saut en tabarnouche puis tomber en bas de votre chaise comme j'ai fait.
Oh no! Vous êtes averti.
Ben oui, ben il faut en conseiller pour tous les goûts. Là. Si ça vous intéresse, ce genre de café acidulé de type bourbon, on vous recommande le 94 Celsius Coffee Roasters qui vient de Montréal. Et voilà, c'est la fin de ma recommandation de café. On n'en parle plus jamais de ce café-là. Maintenant, je vais boire mon café instant Nescafé. Merci.
Parfait. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des cobayes canadiens de la CIA. Mes sources.
Les cochons d'Inde.
Mes sources. Le podcast CBC Brainwashed, qui est un podcast produit par la CBC. Je pense qu'il a été traduit et qu'il est distribué par Radio-Can, si jamais ça vous intéresse.
Oh, vraiment le fun.
Le documentaire Radio-Canada MK Ultra, la fin du silence, qui a été fait par la personne qui a le plus de noms au Québec, Rose Autonne, Aimée T. Morin.
C'est beaucoup de noms, effectivement. Pourquoi ne pas juste avoir un nom?
Ensuite, un épisode d'enquête qui a été fait en collaboration avec The Fifth Estate, qui est basically enquête en anglais.
Ah ouais, c'est vrai.
Et un article de Nicole Beauchamp dans La Presse, un article de Marie Tison dans Le Devoir, un article de The McGill Tribute et des pages Wikipédia juste pour round up everything.
Mm-hmm. C'est bon les pages Wikipédia.
Et aussi, si jamais, après cet épisode, vous voulez en savoir plus, voici mes recommandations de further reading.
OK.
Vous avez Poisoner-in-Chief de Stephen Kinzer qui va vous renseigner un peu plus sur les expérimentations de la CIA et le projet MK-Ultra. Et le livre et le téléfilm du même nom, In the Sleep Room, par Anne Collins, qui vous fait vraiment les témoignages de chaque personne qui a été là. C'est assez volumineux comme ouvrage, donc si vraiment ça vous intéresse de prendre le temps d'approfondir un petit peu plus, je vous recommande ça. Puis aussi, juste avertissement, je ne vais pas aujourd'hui vous faire un épisode super comprehensive sur le MK Ultra puis la CIA, ça serait beaucoup trop long, c'est très vaste, et des podcasts, des documentaires, des livres sur le MK Ultra, il y en a énormément, donc il y a beaucoup d'informations à aller chercher.
Ouais, renseignez-vous, bande de vous. Non, mais c'est vrai, effectivement. T'as pas besoin de faire ça parce que la CIA, ce n'est pas le Canada Intelligence Agency.
Non, c'est le Central Intelligence Agency. Ils sont diaboliques.
Parce que l'Amérique est au centre du monde. Mais non, c'est ça, effectivement. Fait que, oui, sur MK Ultra, il y a bien des affaires que vous pouvez trouver par vous-même et qui ne concernent pas notre belle province de la poutine.
Et aussi, naturellement, avant de commencer, juste des petits trigger warnings.
Oh non!
Donc, naturellement, on va parler de problèmes de santé mentale. Malheureusement, à l'époque, ce n'était pas traité avec autant de douceur et de nuances. Et il va être mention de violences faites aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale.
Oh non!
Et de potentielles violences faites aux personnes autochtones.
Oui, parce que, je veux dire, on est au Canada...
On
c'est
est
un
Canada.
Monde de potentielle violence aux personnes autochtones, malheureusement.
Alors, on peut commencer. Si vous êtes prêts, je vais mettre un petit peu de LSD dans votre café.
Oh, yes, sir!
Oh, oh, oh!
Lucie dans le ciel avec des diamants.
Alors, Depuis 1959, ma vie n'a plus jamais été pareille. J'enrage d'avoir involontairement servi de cobaye par surcroît aux fins d'un pays étranger. Et j'aime ça en même temps diminuer. Voilà le témoignage qu'a livré M. Jean-Charles Pagé à la journaliste Nicole Beauchamp à La Presse en 1985. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que ma grand-mère n'était pas comme les autres. Elle se fâchait facilement, elle pouvait prendre plusieurs semaines pour lire le journal et plusieurs années pour lire un livre. Elle n'arrivait pas à parler de sa vie, elle n'arrivait plus à rire et à plaisanter. Raconte quant à elle l'artiste visuelle Sarah Ann Johnson au sujet de sa grand-mère, Velma Orlikov, au journal The Guardian en 2018. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun, un homme de Montréal et une femme de Winnipeg? En 1957, suite à une dépression postpartum, Velma Orlikov, l'épouse du député manitobain néo-démocrate David Orlikov, va être admise à l'Institut Allen Memorial de Montréal pour y recevoir des soins psychiatriques.
Oh non.
En 1959, Jean-Charles Pagé sera également admis pour traiter ses problèmes d'alcoolisme et d'anxiété chronique. Comme des centaines d'autres patients ayant passé les portes de l'Institut Allen Memorial au cours des années 50 et 60, ils seront soignés par le docteur Ewan Cameron, un psychiatre aussi réputé qu'il avait une ambition démesurée. Maintenant, je vais vous parler de ce fameux docteur Ewan Cameron.
Un savant fou!
L'image du savant fou, oui, en effet.
On dirait, c'est ça?
Il est né le 24 décembre 1901 en Écosse.
Nice! Belle date, belle année, belle place, ça, je suis d'accord avec tout ça.
Diplômé des universités de Glasgow et de Londres,
nice.
Il a servi à titre de président de American Psychiatric Association, du Canadian Psychiatric Association, du American Psychopathological Association et finalement du World Psychiatric Association.
Mais pourquoi mais le World, je comprends, mais il venait de l'Écosse. Qu'est-ce qu'il y avait à voir avec les États-Unis?
Il a été travaillé aux États-Unis.
Oh, les immigrants! Ils viennent puis ils volent nos jobs de président de l'Association des psychiatres! Pas d'allure. Hey.
Après s'être établi à Albany dans l'État de New York, il sera invité par le neurochirurgien Wilder Penfield, le monsieur de la rue Dr. Penfield.
Oh non, le Dr. Penfield de la rue Dr. Penfield!
Eh oui, lui-même. À servir à titre de tout premier directeur de l'Institut Allen Memorial lorsque celui-ci ouvre ses portes en 1943.
Oh, nice.
Fondé par l'hôpital Royal Victoria, le Allen Memorial abrite le département de psychiatrie de l'hôpital et le centre universitaire de santé McGill.
Nice.
Un des moments marquants de la carrière du docteur Cameron va arriver en 1945, quand il va être invité à faire l'évaluation psychiatrique du criminel de guerre Rudolf Hess pendant le procès de Nuremberg.
Oui, c'est ça que j'allais dire! C'est un nazi, ça!
Exactement!
Bravo! Mon père va être fier de moi. Il aime donc ça, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale puis des nazis.
Bravo! Tu connais bien tes prisonniers de guerre!
Yeah!
T'es criminel de guerre, en fait.
Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire.
C'est un criminel de guerre. Scratch that!
Pas la même chose.
Et là, je vous parle de Nuremberg parce que parmi les procès qui ont eu lieu suite aux atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va compter le procès des médecins de Nuremberg.
Oh! Ouais, parce qu'ils testaient des médicaments sur les gens. On a écouté l'épisode de Swindle.
Exactement.
Sur Bayer et Bayer.
Alors, pendant ce procès vont entre autres être jugés Karl Brandt, un professeur de médecine qui avait été chargé du programme Action T4, un programme utilisé pour euthanasier des personnes atteintes de maladies mentales et de handicap.
J'aurais le goût de faire la joke. Action, réaction, mais c'est bien trop épouvantable.
C'est un peu épouvantable.
Ben là, mais hein?
Puisqu'il s'agissait d'un procès sans précédent, les autorités américaines ont mis en place le code de Nuremberg. Il s'agit d'une liste de 10 critères indiquant les conditions que doivent satisfaire les expérimentations faites sur les êtres humains pour être jugées comme acceptables. Là, je vais vous passer rapidement les 10 critères et je vais vous demander d'essayer de les garder en tête au fil de l'épisode, mais il n'y aura pas d'examen après, là, soyez pas stressés.
Non, il n'y a pas un quiz à la fin?
Non, il n'y a pas de quiz, je vous le promets.
OK.
Alors, premièrement, le consentement volontaire et éclairé du sujet humain. L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société qui sont impossibles à obtenir par d'autres moyens.
Ah, tu peux pas juste tester les affaires pour le fun de tester les affaires?
Non.
Ah, mais si j'ai envie de voir, qu'est-ce que ça fait si tu mets ta main dans le micro-ondes?
Faut que ça passe au comité.
C'est pas pour le bien de l'humanité.
Pas vraiment. Plus pour plus pour te désennuyer un après-midi.
Je pense que ma main va tout mourir. En tout cas, je le ferai pas.
Ensuite, les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures. L'expérience doit être pratiquée de manière à éviter toute souffrance et dommage physique non nécessaire. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a raison de croire qu'elle entraînera la mort ou l'invalidité du sujet, sauf si c'est le médecin lui-même qui se sert de sujet.
Oh, nice! Fait que les médecins ont le droit de faire n'importe quoi.
Tu sais, comme dans le film Contagion à la fin, quand je pense que c'est Kate Winslet qui s'injecte elle-même, mais ça, elle peut le faire parce qu'elle elle a pris la décision de se mettre en danger pour son expérience.
Oh, c'est terrible.
Ça n'a pas besoin de passer au comité.
Fait, ça fait... Est-ce que tu es en train de donner des munitions aux anti-vaxxers avec cette liste du code Nuremberg pour les expérimentations scientifiques?
Non, parce que les expérimentations du vaccin, elles ont été faites par des gens consentants.
Pour le bien de l'humanité. Oui, mais les vaccins rendent nos grenouilles homosexuelles, oh my God. On sait ça.
On le sait.
On a écouté InfoWars.
Ensuite, les risques encourus ne doivent jamais excéder l'importance humanitaire du problème.
Okay.
Il faut éviter toute éventualité de blessure, d'invalidité ou de mort. L'expérience ne peut être pratiquée que par un personnel qualifié. Le sujet doit être libre d'interrompre l'expérience à tout moment. Et le scientifique en charge doit interrompre à tout moment l'expérience s'il y a risque de blessure, invalidité ou mort. Donc, ce sont les 10 préceptes du Code de Nuremberg.
Le Code de Nuremberg s'applique à quoi exactement?
Toute expérience faite sur des êtres humains.
Mais le Stanford Prison Experiment, ça cochait aucune de ces cases-là,
mais je pense. C'était-tu avant? Ou peut-être que ça n'a pas passé au comité?
Non. Ben, c'est en quelle année, ça? C'était les années 60, le Stanford Prison Experiment.
Ça n'a pas passé sur le comité. Mais le Code Nuremberg, en tant que tel, c'est pas une loi. C'est un texte qu'ils ont écrit pour juger les criminels de guerre nazis. Donc, c'est les préceptes sur lesquels ils se sont basés. Et ensuite, les préceptes vont servir à d'autres déclarations sur les droits des sujets humains.
Mm-hmm.
Puis ça va être resserré beaucoup plus tard, dans le sens de vraiment plus tard.
Excusez, je viens de vérifier, puis c'est les années 70. C'est 1971, le Stanford Prison Experiment. Mais quand même, il aurait dû être au courant de ça!
Mais ça, vu que c'est une expérience psychiatrique, je sais pas si elle passe les mêmes par les mêmes circuits.
D'une certaine manière, il y avait de la torture puis des sévices corporels.
Oui.
Mais on en reparlera une autre fois, ça. Je sais pas si un jour on fait un spécial États-Unis. Ça pourrait être intéressant de parler de ça.
Ah oui.
Parce que c'est pas un cas de crime. Il y a pas eu de procès.
Non.
Tu sais, c'est pas vraiment un crime. C'est juste bizarre.
Quelque chose qui a dérapé!
Ah!
Là, le docteur Cameron, en tant que tel, n'a pas participé au procès des médecins, mais au terme du procès de Nuremberg, il va publier un texte intitulé « Nuremberg and its Significance », où il va commencer à théoriser que la population est scindée en deux groupes, soit les faibles, qui sont incapables de prendre part à la vie commune, et les forts, qui ont pour responsabilité d'isoler les faibles du reste de la société.
Ça se prétend médecin, là, ça!
Hey, le Doc Mayou, il est comme nice!
Ah, oh, j'aime ça, ce principe-là. Réel aussi, il aurait aimé ça. Oh mon Dieu!
Et d'autres personnes peu recommandables.
Qui ça? Claude Vorion? Jamais de la vie!
Pour lui, les personnes atteintes de maladies mentales étaient des faibles qu'il fallait à tout prix retirer de la société pour éviter qu'ils influencent les enfants. Fait qu'en gros, il est allé à Nuremberg, puis il a tout compris à l'envers.
Mon Dieu, mais ça vole pas haut, la psychiatrie, à cette époque-là?
Non, moi, je suis comme... Fait que toi, t'es allé à Nuremberg, où est-ce qu'on a jugé des criminels de guerre pour avoir basically fait de l'eugénisme, puis toi, t'es revenu ici en faisant comme... Voici les bases de l'eugénisme.
Faisant de l'eugénisme, oui.
Mais là, je vais pas comme trop m'enfoncer, parce qu'il y a des membres de la famille du Dr. Cameron qui sont toujours en vie et qui aiment pas ça quand on dit que c'était un parfum.
Ben oui, mais là, ok, parfait, on va dire dans d'autres mots.
Alors, parmi les faibles qu'il faut éliminer à tout prix, puis là, je veux juste vraiment mettre ça au clair que je cite les textes du Dr. Cameron, que ce ne sont pas mes opinions à moi.
Non, c'est ça, c'est pas nous, là, ça, on le sait. On le sait que c'est pas toi.
Alors, Ewan Cameron a consacré une grande partie de ses recherches aux personnes atteintes du trouble schizophrène.
Ah, oh, comme Denis Lortie!
Exactement.
Selon Pierre Mailloux seulement.
Alors, Cameron était persuadé que s'il parvenait à trouver un remède contre la schizophrénie, il gagnerait un prix Nobel. Alors, il s'est inspiré des travaux sur la privation sensorielle de Donald O. Hebb, qui était un de ses collègues à McGill. Et Cameron croyait pouvoir employer une technique de déstructuration, le depatterning, pour anéantir chez un patient les schèmes de pensée négatives pour les remplacer par des schèmes de pensée plus sains et plus indiqués.
Moi, j'ai très hâte que ma sœur écoute cet épisode.
Oh, la mienne aussi!
Ma sœur a étudié la psychologie. Ben, c'est ça. Il y a des affaires là-dedans qui se valent, mais les conclusions auxquelles ils sautent sont un peu spéciales.
Ouais, puis attends de voir les traitements, tu vas faire comme « Oh, non! »
Puis je veux dire, c'est quoi le lien entre la déstructuration puis la privation sensorielle? C'est ça le bout que j'ai de la misère à saisir, mon
sœur. J'y arrive!
Ah!
Dans ses expériences en lien avec la privation sensorielle, Hebb avait recruté des étudiants en psychologie de McGill.
Ah, cool.
Pendant les expériences, les participants et participantes se faisaient bander les yeux, mm-hmm. boucher les oreilles et plaçaient leurs mains et leurs pieds dans des grosses mitaines en caoutchouc, là, comme les gros doigts numéro 1.
Nice!
Avant d'être placés dans une pièce insonorisée.
Moi, je bats très près.
Et aucun participant n'est parvenu à rester plus qu'une semaine.
Une semaine?!
Mais ils sortaient. C'était des chiffres. Qui faisait.
Oh mon Dieu! C'est genre, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette expérimentation bizarre d'université-là?
Mais il n'y a personne qui est revenu après une semaine.
Ah, ok, oui.
L'expérience servait à démontrer la dépendance de l'esprit à l'environnement.
Mais ça fait tellement peur!
Oh, moi aussi, je suis comme, waouh! Toute seule avec mes pensées, jamais de la vie!
Mon chum, il trippe sur les bains de privation sensorielle là, qu'il y a dans des spas des fois. Tu sais, tu peux aller dans une bulle, puis tu flottes parce que l'eau est salée, puis il n'y a pas de bruit, puis.
Je veux pas faire ça!
C'est correct faire ça 45 minutes à la fois, mais une semaine!
Non!
Oh my God!
Non, il restait plusieurs heures dans la pièce, par exemple, comme il sortait, mais c'était plusieurs heures.
Moi, j'ai participé à une étude clinique quand j'étais aux études.
Oh!
Est-ce que tu me diras quand je peux vous compter ça?
Ah, oh, vas-y!
Ah, yay! Yeah. C'était très relax. C'était pour le département de psycho à l'UQAM, bien sûr.
Ah! Oh.
L'Université du Québec au Grand Montréal. District 31. Puis je me suis présentée une fois, ça a duré 45 minutes, ils m'ont donné de l'argent, pas beaucoup d'argent, mais quand même. Puis le principe, c'est que j'étais assise devant un ordinateur, puis j'essayais d'aligner des formes. Je portais des goggles pour la perception en profondeur, tu sais.
OK.
Et j'essayais d'aligner des formes sur l'ordinateur avec ma souris. Après ça, ils mettaient des électrodes sur mon cerveau, puis ils faisaient passer un petit courant très très faible dans mon cerveau, puis je refaisais le même exercice. Pour voir si j'arrivais au même résultat. Aucune idée que ça a donné, cette expérimentation-là.
Mais ça faisait pas mal?
Non, tu sentais rien pantoute. Moi, j'ai rien senti du tout. Puis j'en suis ressortie avec des super pouvoirs. Non, mais c'est ça.
Oh!
Je m'attendais à, je sais pas, à avoir une épiphanie ou, tu sais, avoir un vision quest en sortant là, puis j'ai trouvé le sens de l'existence. Mais non, ça a rien donné pantoute, sauf qu'ils m'ont donné de l'argent.
C'est à peu près. Écoute,
j'ai pu me payer un lunch. Ça se prenait! C'est très le fun! Je vous encourage à faire ça si vous êtes un étudiant paumé. Là. Il y en a tout le temps affiché sur les billboards là, des étudiants qui en psycho qui cherchent du monde pour faire des tests, là, puis ils payent comme 20$, t'es là 45 minutes, puis c'est bien le fun.
Puis en plus, avec le podcast d'aujourd'hui, maintenant, vous savez, c'est éthique ce qui se passe.
Ben oui, puis là, vous savez aussi que c'est quelque chose qu'on peut faire sans mourir.
Voilà!
À moins que je sois morte, puis qu'on soit dans le sixième sens.
Le afterlife. Alors, dans sa version de l'expérience de Hebb, Cameron, il a tourné la crinque à 11,
mm-hmm.
comme dans This is Spinal Tap.
Yes!
Et au lieu de simplement isoler ses patients, il les injectait d'un cocktail de barbiturique,
ben
véronal, séconal, nambutal et largactyl.
Non.
Là, ma sœur, elle doit être comme « Oh, tabaslac! »
Je sais pas pantoute ce que ça veut dire, sauf barbiturique.
Afin de les plonger dans des périodes de sommeil prolongé, qui pouvaient parfois atteindre jusqu'à plusieurs semaines.
Ben voyons
Selon le docteur Cameron, le sommeil prolongé induisait une confusion chez ses patients.
Ben oui, ça m'étonne pas.
C'est le fun de dormir, mais à un moment donné, faut que tu reviennes.
Mais là...
Dans le fond, ça provoquait une confusion chez ses patients, ce qui rendait leur état d'esprit propice à la déstructuration et à la redirection de la psyché, ce qu'il appelait le « psychic driving ». Donc, dans le fond, il essayait de vider ta tête pour mettre d'autres choses dans ta tête, en langage très court.
Encore une fois, je vais le dire, là, je comprends les prémices, mais je suis pas d'accord avec les conclusions pantoute, là.
Non.
Parce que t'aurais bien plus de chances d'entrer dans un délire psychotique si tu dors pendant des semaines puis tu sais pas pourquoi.
Exactement. Puis la crainte qu'elle va bientôt arriver à 11.
Un délire paranoïde.
fait que les patients, ils faisaient pas juste un petit dodo.
Non, non.
Pendant les périodes de sommeil prolongées, les patients subissaient des traitements aux électrochocs de 30 à 40 fois plus forts que la dose recommandée à l'époque. Les patients étaient aussi régulièrement injectés avec du LSD. Un traitement que plusieurs patients décrivent comme leur ayant donné l'impression que leurs os étaient en train de fondre.
Attends, tout ça pendant qu'ils dorment?
Oui.
Ben voyons donc.
Par ces traitements, Cameron cherchait à figer l'esprit de ses patients et à les faire régresser à un stade enfantin. Parce que c'est quand on est un enfant qu'on apprend nos comportements. Le fils d'un des anciens patients du docteur Cameron raconte que son père a dû subir des traitements aux électrochocs encore plus forts parce qu'après plusieurs mois passés entre les mains du docteur Cameron, il demandait encore à voir sa femme et ses enfants. Donc c'était une preuve qu'il y avait encore une mémoire, un souvenir, que sa tête n'était pas vide encore. Quand sa famille a enfin pu le voir, l'homme ne parvenait plus à parler et il avait besoin d'aide pour aller à la toilette. Dans ses écrits consignés dans les archives de la American Psychiatry Association, le docteur Cameron parle avec fierté de ses patients, qui n'étaient parfois âgés que de 19 ans, qui étaient devenus doublement incontinents et n'arrivaient plus à se nourrir par eux-mêmes grâce à ses traitements.
Excuse-moi, puis là, la famille de ce gars-là veut pas qu'on dise que c'est un pas fin. Mais c'est complètement inhumain. Mais si ça tombe pas de bon sens!
Le fils du docteur Cameron a été interviewé au podcast CBC, Brainwashed, et je pense qu'il est aussi dans le documentaire de Radio-Canada, MKUltra. Et il dit « Non, mais mon père, il a fait vraiment beaucoup de choses là, pour la psychologie. Là, c'est plate qu'on se rappelle juste de ça maintenant. » Puis moi, ça me fait penser à... Je sais pas si c'est une joke ou quelque chose que j'ai vu dans une émission à un moment donné, mais c'est quelqu'un qui dit « Oh my God, t'aides le monde, t'es généreux, mais tu fourres une chèvre une fois! »
Oui! Effectivement, j'ai déjà entendu cette blague. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais je trouve que ça se vaut pas comme... Sauf votre respect, Monsieur Chose Cameron, là! Ça se vaut pas comme argument, parce qu'il a pas fait ça à une personne. S'il a fait ça à une personne, puis après ça, il arrive à la fin, puis il est comme « Wow, whoops. C'était épouvantable. Whoops, whoops, c'est doux, c'était épouvantable, c'était terrible, c'était inhumain, on fait plus jamais ça. Ok, oui, peut-être qu'on va considérer qu'on peut mettre ça de côté puis penser à ses autres accomplissements dans la vie, là. Mais ça, c'est beaucoup de monde pendant beaucoup d'années. Il y a plein de moments où est-ce que tu peux te dire comme « Oh, peut-être que je pourrais arrêter de torturer du monde! Jusqu'à temps qu'il chie dessus! »
Beaucoup de temps, justement, pour self-reflection, puis te dire « Je sens que je ne rends pas le monde un meilleur endroit. »
Ah! Oh. Puis ça marchait-tu, la restructuration, à la fin de cette histoire-là? 29 minutes, je pogne déjà une heure.
Une fois l'esprit et les souvenirs détruits, il était temps d'implanter les nouveaux schèmes de pensée dans l'esprit du patient.
Oui.
Donc, pour ce faire, le docteur Cameron plaçait des casques de football agrémentés d'un magnétophone sur la tête de ses patients, pour les forcer à écouter un enregistrement sur lequel une phrase était répétée sans arrêt.
Ah, c'est le fun, ça!
La phrase pouvait être négative, par exemple « Tu es une mauvaise mère ».
Oh non!
Ensuite, remplacée par des phrases positives comme « Les gens apprécient votre compagnie ». Les périodes d'écoute pouvaient durer jusqu'à 20 heures et le même message peut être entendu jusqu'à un demi-million de fois. Selon des témoignages d'anciens patients, il y a certains qui en sont venus à se frapper la tête sur les murs pour tenter de se défaire du dispositif qui était carrément barré sur leur tête.
Oh my God!
Ça fait très décadence.
Mais pas dans le bon sens.
Il y a aussi des magnétophones qui étaient placés sous les oreillers des patients pour qu'ils continuent à écouter les messages pendant leur sommeil. Là, s'il y a des fans de Aldous Huxley, oui, c'est un petit peu comme le Sleep Learning dans Brave New World, qui était un ouvrage que Dr. Cameron trouvait fascinant.
Mais c'est un très bon livre, moi j'ai bien aimé ça, mais j'ai pas envie de commencer à l'appliquer dans la réalité.
C'est un très bon livre, mais je veux absolument pas vivre dans ce monde-là.
Non, parce que c'était pas vrai que c'était un Brave New World de Dr. Cameron.
Non, vraiment pas. Bon. Questionné plusieurs années après les événements, les anciens patients du Dr. Cameron, comme Velma Orlikov et Jean-Charles Pagé, ont expliqué avoir fait confiance au docteur en raison de sa bonne réputation.
Ben oui.
Le Dr. Cameron était une sommité dans son domaine et certains se sentaient même privilégiés d'avoir été pris sous son aile. Puis même, autre chose à savoir, c'est que les patients payaient pour recevoir ces traitements-là. Par exemple, Velma Orlikov, qui venait de Winnipeg, elle s'était trouvé un petit appartement à Montréal, puis elle faisait des « odd jobs » pour pouvoir continuer de payer ces traitements-là, qui l'ont détruite.
Mm-hmm.
Parce que les gens pensaient que c'était le traitement, puis ça allait les aider, puis grâce à ça, ils allaient pouvoir retourner dans leur famille, puis reprendre leur place, puis que tout allait bien aller après, là.
Mais il avait le droit c'est de sortir terrible. Du Allen Institute Memorial pour travailler?
Elle, parce que... Je pense que c'est parce qu'elle avait plus d'argent pour payer les traitements, donc elle sortait, mais il finissait toujours par revenir. Il y avait des droits de visite. Puis justement, il y a des membres de la famille dans l'épisode d'enquête qui décrivaient carrément avoir eu l'impression d'être dans le film One Flew Over the Cuckoo's Nest, donc avec des gens qui parlaient pas, qui fixaient le vide, qui bavaient, qui parlaient comme des enfants. C'est une vision d'horreur, selon moi.
Mm-hmm.
Et Une autre chose aussi, c'est que quand un patient refusait de se plier à un traitement, par exemple, qu'il refusait d'être injecté au LSD ou de recevoir des électrochocs, le docteur ou un de ses assistants allait gronder le patient et questionnait ses motivations à aller mieux. On lui disait, si tu veux pas avoir ton traitement, c'est quoi là? Tu veux pas t'améliorer? Tu veux continuer d'être un burden pour ta famille? Comme t'as pas l'air de comprendre, là, tu fais du mal à ta famille, puis là, tu veux pas recevoir ton traitement. C'est vraiment crève-cœur.
Mm-hmm.
Puis aussi, les patients éventuellement finissaient par se plier au traitement parce qu'ils étaient terrifiés à l'idée de décevoir leur famille ou leurs proches.
Oh non!
Mais aussi, selon les témoignages des anciens patients, ils allaient pas mieux.
Mm-hmm.
Quand ils avaient le droit d'aller visiter leur famille, les patients du Dr Cameron, ils parlaient presque pas, ils riaient pas, ils semblaient même pas reconnaître les membres de leur famille. Et plusieurs parents et amis des anciens patients du Dr Cameron parlent d'un deuil qu'ils ont dû faire et de devoir accepter de vivre avec un étranger sous leur toit.
Oh non!
Je trouve ça terrible, la personne est encore là, elle est juste à l'intérieur d'elle, elle est plus là.
Mm-hmm.
Puis, en 1964... Le Dr Cameron va quitter l'Institut Allen Memorial pour aller s'installer aux États-Unis avec sa famille. Dans les années qui vont suivre, son successeur à la direction du Allen Memorial va interrompre toutes ses expériences en lien avec la déstructuration et le psychic driving, et il va affirmer que les traitements élaborés par Cameron n'avaient que très peu, voire carrément aucun effet bénéfique sur les personnes atteintes de troubles de santé mentale.
Tu m'étonnes!
Quelques années plus tard, en 1967, le Dr Cameron va décéder des suites d'une crise cardiaque pendant une excursion en montagne avec sa famille. Mais ce sombre moment de l'histoire canadienne n'était pas sur le point de s'éteindre avec lui. Parce que si les traitements du Dr Cameron avaient très peu ou carrément pas d'effet thérapeutique, est-ce que ça serait possible qu'il ait servi à autre chose?
J'ai pas de fun présentement, j'ai peur.
En 1979, chez nos voisins du Sud, paraît un livre choc. « The Search for the Manchurian Candidate ». Dans le livre, John D. Marks détaille les efforts déployés par la CIA pendant la guerre froide pour développer des méthodes de lavage de cerveau. Approuvé en 1953 et baptisé le MK Ultra, le projet a été mis en branle suite à la guerre de Corée, quand des soldats américains rapatriés au pays se sont mis à émettre des commentaires désobligeants à l'endroit des États-Unis et élogieux à l'endroit des pays régis par des partis communistes.
Ben coudonc, ils devaient être brainwashés!
Hey, c'est-tu parce que c'est de la schneive aux États-Unis?
Communism! C'est notre ennemi à tous.
Les rouges.
Moi, j'aime ça, le communisme. Les rouges!
Sur papier, ça marche.
Sur papier, c'est très intéressant.
La CIA est alors convaincue que les Soviétiques et les Chinois sont parvenus à développer une arme leur permettant de contrôler l'esprit humain. En réponse à la menace perçue, la CIA va décider de concentrer ses efforts sur une drogue découverte en 1943 par le docteur Albert Hoffman, le LSD! Là, vous pouvez mettre la petite Yay! Musique de The Doors en arrière de moi.
Ah, oh, yes sir!
Leur but, c'était de développer un nouveau type de guerre qui limiterait les dégâts matériaux et humains, soit une guerre psychologique.
Oh non, pas la guerre psychologique comme dans Astérix.
Exactement.
Avec Savant Cosinus.
C'est ainsi que le LSD a été étudié par la CIA pour son potentiel à dégourdir les langues, affaiblir la résistance psychologique d'un sujet et ouvrir son esprit à la manipulation.
Fait qu'il était utilisé pour interroger du monde.
Ouais, pour te faire perdre tes repères puis rendre ça plus facile de rentrer dans ta tête.
Ils sont bien craqués, les Américains!
Ah, la CIA, là, c'est comme quelque c'est chose! Un
gros statement! Effectivement. Est-ce que c'est vraiment l'agence centrale d'intelligence ou c'est l'agence centrale des craqués mentaux? Non, mais je trouve ça bien bizarre.
Si ça vous intéresse, le MK Ultra, en plus, vous allez voir d'autres expériences qu'ils ont faites avec le LSD, comme le fameux Midnight Climax, qui était une expérience où est-ce que des travailleuses du sexe donnaient du LSD à leurs clients en cachette et les agents de la CIA étaient cachés dans une autre chambre d'hôtel puis regardaient ce qui se passait. Donc,
c'était du fun?
J'imagine. Ça devait être divertissant.
Ça devait être divertissant pour les agents de la CIA.
En tout cas, si ça vous intéresse, le MK Ultra, c'est vraiment une grosse histoire et c'est très funky. Là, c'est grâce à une loi sur l'accès à l'information, donc le Freedom of Information Act, que l'auteur de The Search for the Manchurian Candidate a réussi à mettre la main sur les archives de la CIA.
Mm.
La surprise, les documents sont très censurés. de partout avec des charpies.
Ben là...
Mais il va quand même parvenir à établir que pour éviter un incident politique en expérimentant sur des citoyens américains, la CIA a développé des sous-projets à l'étranger. Parmi eux, on retrouve le sous-projet 68.
Maudit que j'ai zaï.
Pour ce sous-projet, la CIA a créé une société écran qu'elle a baptisée la Society for the Investigation of Human Ecology et qui aurait fourni près de 69 000 $ US à un médecin originaire d'Albanie à New York qui travaillait au Canada à l'Institut Allen Memorial.
Coudain, on suit le Dr. Ewan Cameron?
Ouais, oui, c'est le Dr. Ewan Cameron!
Oh! J'ai fait des liens dans ma tête! Même pas besoin de prendre du LSD!
Follow the money, comme qu'on disait dans The President's Man, avec Peter et Stephen.
Avec Peter et Stephen, c'est effectivement ce qu'on disait.
Des scientifiques qui travaillaient pour la CIA avaient été fortement intéressés par les travaux de Cameron, qui portaient sur le psychic driving et le depatterning, et qui avaient été publiés dans le American Journal of, Psychiatry... J'en perds mon anglais!
Mais c'était facile de faire publier ça là parce qu'il était le président de l'American Association of Psychiatry.
Eh, j'ai raison!
C'est bizarre, il me semble qu'il devrait avoir plus d'oversight que ça. Je suis comme pas... Je sais pas, je trouve que ça a l'air biaisé comme système, en tout cas.
Ouais, dans ce temps-là, le peer review, ça existait-tu?
Ouais, on se le demande.
Puisque la CIA avait utilisé une société écran en plus d'un émissaire pour financer les activités du Dr. Cameron, il est difficile d'établir clairement si celui-ci le savait qu'il effectuait des recherches pour le compte de la CIA.
Give me a break. OK, oui.
Mais je sais pas, me semble à un moment donné, comme... Oh, dégueu. Par contre, c'est grâce à la publication du livre de John D. Marks, The Search for the Manchurian Candidate, et de nombreux articles parus dans le New York Times, que la nouvelle des expérimentations de la CIA en sol canadien a pu traverser la frontière. Et c'est comme ça que Velma Orlikov et Jean-Charles Pagé ont su qu'ils avaient servi, contre leur gré, de cobayes aux expérimentations de la CIA avec le lavage de cerveau.
Oh non!
Affaire de fun à lire dans le journal!
Tu dois te dire « ceci explique cela » en tabarnouche, là.
En 1984, va s'entamer la bataille juridique opposant 9 anciens patients du Dr. Cameron, parmi eux 6 Québécois et Québécoises, à la motherfucking CIA!
Non, il faut pas sacrer en onde. Tu sais, je sacre jamais.
On est des ladies! Ils vont être représentés par 2 avocats américains spécialisés dans le droit civil, civil rights et civil liberties, Jim Turner et Joseph L. Rao.
Ben, c'est même pas des noms le fun. Je pensais que ça allait être des noms comme, je sais pas, Jimbo, Freaking Buffer, une affaire de même. C'est des noms d'Américains.
Non, ça, c'est les joueurs de baseball dans les sketchs de France.
Oui, aussi, aussi. Blight Tippet Tatawaka.
Alors, Joseph L. Rao, c'est pas personne. En plus d'avoir participé à la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, où il a marché aux côtés de Martin Luther King... Il est connu pour avoir défendu de nombreux écrivains pendant la chasse aux sorcières communistes de Joseph McCarthy, pour avoir lutté pour la déségrégation et pour le droit de vote.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les Afro-Américains. Pour bâtir leur cas, Turner et Rao vont se baser sur le code de Nuremberg pour démontrer qu'il y avait négligence au moment des expérimentations, et qu'en finançant les activités du Dr. Cameron, la CIA avait sanctionné la torture psychologique de 9 individus qu'il représentait. En entrevue avec la CBC, Jim Turner rappelle le premier précepte du Code Nuremberg, selon lequel un sujet doit donner son consentement libre et éclairé à participer à une expérience.
Il me semblait que ça allait revenir, ce soir-là.
C'est ça. Alors, parmi les dossiers étudiés, Turner et Rao sont parvenus à établir qu'aucun patient du Dr. Cameron n'avait consenti à ces expérimentations. Dans le fond, ils auraient été victimes d'un leurre. Ils ont été admis de leur plein gré à l'Institut Allen Memorial parce qu'ils croyaient qu'ils recevraient des traitements pour leurs problèmes de santé mentale, mais ils n'ont jamais accepté de se faire injecter avec du LSD ou de subir des traitements d'électrochocs.
Ben non, c'est ça!
Il y a des anciens assistants du Dr. Cameron qui ont même raconté qu'eux-mêmes, parfois, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'il y avait dans les seringues ou dans les petits verres de pilules qu'ils donnaient à leurs patients. et que ça arrivait souvent que les patients se cachaient quand on allait les chercher pour leur faire subir des traitements d'électrochocs. Donc, consentement, non, il n'était pas là.
Il devait avoir peur, c'est ça!
Ben, dans les extraits de Fifth Estate qu'on voit dans l'épisode d'enquête, il y a des anciens patients qui étaient encore en vie, puisque l'épisode de Fifth Estate datait des années 80 pendant les poursuites. Puis tu vois vraiment la terreur dans les yeux des gens quand ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Là. C'est affreux.
Mais ça devait être épouvantable, c'est ça?
Puis aussi, un autre précepte du code de Nuremberg, c'est qu'un participant peut se retirer à n'importe quel moment.
Mm-hmm.
Si le docteur Cameron prétendait s'inspirer des travaux de son collègue de McGill, Donald Hebb, lui, il donnait la pleine liberté à ses sujets de quitter quand ils n'en pouvaient plus.
Mm-hmm.
Mais en revanche, le docteur Cameron, il grondait ses patients quand ils refusaient de se plier au traitement. Puis en plus, le docteur Hebb, il avait recruté ses patients. Tandis que le docteur Cameron, il a expérimenté sur des personnes vulnérables à qui on avait promis une solution pour leurs problèmes.
Oh, c'est tellement triste, ils ont tellement profité ces gens-là.
Donc ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Et puis là, la cerise sur le sundae, c'est qu'en fouillant dans les archives de la American Psychiatry Association, Turner et Rao ont mis la main sur un speech du Dr. Cameron où lui-même admettait que ses traitements étaient en fait une forme de brainwashing.
Mm-hmm.
Puis là, ensuite, du côté de la CIA, Turner et Rao ont interrogé pendant 3 jours Sidney Gottlieb, le scientifique à la tête du projet MKUltra. Pendant cet interrogatoire, on refait surface la mort de Frank Olson, un collègue de Gottlieb à la CIA, qui serait mort dans des circonstances étranges après qu'on ait glissé du LSD dans son café à son insu. Frank Olson a sauté par la fenêtre et il est mort. Et la CIA ont un petit peu juste fait comme « whoops ».
Ben, je m'excuse, mais c'est pas des circonstances étranges, ça, c'est très facile à comprendre, non?
Selon moi, oui, mais la CIA ont jugé circonstances étranges.
La CIA, c'est des tweets.
C'est des personnes très diaboliques.
Dans mon opinion très professionnelle, c'est des tweets.
Toujours en entrevue avec CBC, l'avocat Jim Turner décrit Gottlieb comme un homme froid et unrepentant. Quand on lui demande s'il s'était assuré que les expériences menées par la CIA dans le cadre du MKUltra suivaient une éthique quelconque,
mm-hmm.
il déclare ouvertement que ça n'a jamais fait partie de ses soucis et que les victimes du Dr. Cameron ainsi que Frank Olson étaient des dommages collatéraux à sa mission et rien de plus.
Mais voyons donc, c'est ce monsieur-là qu'on devrait mettre dans un asile de fous. Non, mais je veux dire, ça n'a pas de sens.
Il avait commencé sa carrière comme assassin à la CIA, puis comme son mindset n'a jamais vraiment changé.
Wow.
Lui, il avait une mission qui était « faut qu'on réussisse à contrôler l'esprit des autres, puis tout ce qui est arrivé autour, c'est pas grave. C'est vraiment la fin justifie les moyens. »
Mais il est dangereux, cet homme-là!
Quand j'ai lu un peu Poisoner in Chief, quand j'allais feuilleter, j'ai fait « cet homme est un danger public. Il n'aurait jamais dû être en charge de quoi que ce soit. »
Oui, oui, arrêtez-moi ça au plus sacré et envoyez-le au Allen Institute Memorial de se faire faire des électrochocs.
Mais
voyons
donc. Il y a une brique qui allait bientôt s'abattre sur les avocats Turner et Rao.
Oh non, laquelle?
Parce que si, au début, le gouvernement canadien avait accepté de coopérer avec eux en leur fournissant les dossiers médicaux de leurs 9 clients, la collaboration va prendre fin abruptement quand il va être révélé que le Dr. Cameron, il n'avait pas juste reçu de l'argent de la société écran fondée par la CIA,
mm-hmm.
il avait reçu de l'argent du gouvernement canadien.
Non! Non!
Oh que oui!
Est-ce que le gouvernement canadien savait que c'était une société écran pour la CIA?
Ben, eux, ils donnaient l'argent à Dr. Cameron pour ses recherches. Donc, je sais pas à quel point le gouvernement était au courant que la CIA avait étendu ses tentacules jusque chez nous.
Non, ces tentacules-là! Oh.
Surtout que c'est quelque chose qui devrait les intéresser, puisque ça viole la souveraineté du Canada.
Ouais, Justin, fais quelque chose!
Justin, do something about it!
Oh, do something about it, Justin!
Alors, probablement parce qu'ils craignaient d'être poursuivis à leur tour ou un incident diplomatique avec les États-Unis.
Bon, je pense la deuxième option.
Le gouvernement canadien va donner pour mission à l'avocat George Cooper de produire un rapport qui blanchit le gouvernement fédéral de toute responsabilité juridique ou morale à l'égard des victimes de Cameron. Cooper, un ancien député conservateur du gouvernement Clark, il n'est jamais entré en contact avec les anciens employés de Cameron, ni avec ses anciens patients, ni avec les familles de ces derniers. Dans le rapport publié en 1986, Cooper affirme que le gouvernement canadien n'est pas responsable puisqu'il n'y avait aucun moyen de contrôler les expérimentations effectuées par le Dr. Cameron. Toujours selon Cooper, même si le docteur Cameron semble parfois faire preuve d'imprudence, il n'aurait pas agi à l'extérieur des limites tolérées à l'époque et il aurait été motivé par un désir sincère d'aider ses patients. Le rapport va même se conclure sur le témoignage d'un « expert », déclarant que rien ne prouvait que les expériences du docteur Cameron avaient causé des torts irréparables chez ses anciens patients qu'ils n'ont même pas rencontrés.
Mm-hmm.
Le rapport a tout de suite été contesté par le député néolibéral David Orlikov, qui était le mari de Velma Orlikov, et celui-ci va déclarer que le rapport de Cooper est extrêmement limité et ses conclusions non fondées. Il déplore également que celui-ci n'ait jamais cherché à questionner sa femme au sujet des traitements qu'elle a subis aux mains du docteur Cameron. Toujours selon David Orlikov, par ce rapport, le gouvernement canadien aurait tenté d'étouffer l'affaire et d'empêcher d'autres victimes de se manifester et de s'éviter des représailles de la part de la CIA. Donc, se protéger les foufounes.
Mm-hmm, on dirait bien oui.
Donc là, j'ai pas accès à toutes les procédures judiciaires parce que le procès était aux États-Unis et non au Canada. Mais je peux vous dire qu'au final, la lutte des anciens patients contre la CIA, elle va se régler hors cours. Et le gouvernement américain va accepter de verser environ 70 000 $ à chaque plaignant.
Mais ça, c'est bon, ça! Ça, quand ça se règle hors cours, c'est parce que le monde savent qu'ils ont des choses à se reprocher!
Exactement!
Que je dis.
Et c'est un montant auquel le gouvernement canadien va ajouter 20 000 $ selon Joseph Rowell, c'est une conclusion assez bittersweet. Parce que les anciens patients du docteur Cameron, ils n'étaient pas en quête d'argent, mais en quête de justice et de reconnaissance.
Ouais.
Ce qu'ils voulaient, c'était des excuses.
Ouais.
Et savoir qu'ils n'étaient pas fous et qu'ils n'avaient rien à se reprocher.
Oh, pauvres autres, c'est sûr qu'ils n'ont rien à se reprocher.
Mais là, suite au remous causé par le settlement entre les anciens patients du docteur Cameron et le gouvernement américain, le gouvernement canadien va débuter un programme de compensation à la fin des années 80.
Bon!
Par contre, le gouvernement n'admettait toujours aucune faute de sa part et n'acceptait de compenser les victimes que sur des bases de compassion.
De rien. Oh, mangez donc de la chenaille!
C'est un bien beau sentiment, mais il y a très peu d'anciens patients qui ont été admis à ce programme pour lesquels ils pouvaient recevoir jusqu'à 100 000 $ en compensation. La raison, c'est que les dossiers médicaux étaient parfois introuvables. Et le docteur Cameron avait changé les noms de ses patients dans ses dossiers. Donc, c'était difficile des fois de prouver que la personne avait été traitée par le docteur Cameron.
Ah, il est bien épouvantable, maudit docteur Cameron!
À ce jour, c'est l'avocat Alan Steen qui tente un recours collectif contre le gouvernement canadien au nom des anciens patients du docteur Cameron. Mais il admet que les procédures sont extrêmement difficiles en raison de l'expiration du délai prescrit au programme, parce que les victimes avaient jusqu'à 1992 pour faire une demande. En plus, il y a beaucoup des anciens patients qui sont décédés, et leurs descendants ne sont pas admissibles au programme de compensation prévu par le gouvernement, à moins qu'ils possèdent une preuve selon laquelle leurs proches avaient de 1. Bel et bien été un patient du Dr. Cameron, et de 2, tenter de s'inscrire au programme avant la date d'échéance de 1992.
C'est le Statute of Limitation, c'est ça?
Oui, c'est ça.
OK.
Il y a une dame, Alison Steele, qui est parvenue à mettre la main sur le dossier médical de sa mère et les demandes de compensation qui avaient été faites par son père en 1991.
Nice! Il était droit de sa limite!
Exactement. Alors, le gouvernement canadien lui a accordé les fonds en 2017 avec une promesse de non-divulgation.
Mais là, comment qu'on connaît son nom, d'abord?
C'est le montant. Elle peut pas dire c'est quoi le montant qu'elle a obtenu.
Ah, OK!
Pour Alan Steen, qui avait représenté Mme Steele, c'est une manœuvre pour éviter d'encourager d'autres recours contre le gouvernement. Et il y a encore des recours contre le gouvernement présentement. Si vous allez sur le site où est-ce qu'on voit les recours collectifs, il y a encore les victimes du Allen Memorial.
Ah, pour vrai? Ah oui, c'est vrai, j'avais trouvé ça quand j'avais trouvé le recours collectif contre le shampoing très aimé.
On attend encore. Et de son côté, McGill, ils sont pas mal silencieux à propos de ce qui s'est passé entre ses murs. Dans les archives, les mentions du Dr. Cameron se limitent pas mal à dire qu'il bénéficiait d'une excellente réputation dans son champ d'expertise. Et dans le documentaire MK Ultra, La fin du silence, la journaliste Rose Aimée, elle se fait raccrocher la ligne au nez plusieurs fois quand elle tente d'entrer en contact avec des archivistes de McGill. Dès qu'elle mentionne le Dr. Cameron, ça fait clic de l'autre côté.
Je sais pas pourquoi tu m'étonnes pas pantoute, là.
Surprise!
J'ai pas besoin de mettre mon chapeau surprise.
Tu peux le laisser dans l'armoire.
Oui, il est bien dans l'armoire.
Et puis là, coup de théâtre! Pendant que je faisais mes recherches, le 20 octobre 2021, oui, ça fait longtemps que je fais mes recherches.
Yeah!
Un groupe appelé Mohawk Mothers a fait les manchettes en déclarant qu'il est possible que des tombes anonymes se trouvent sur le terrain à proximité de l'Institut.
Oh non!
Ces tombes anonymes pourraient potentiellement contenir les dépouilles d'enfants Mohawk qui auraient été retirées d'écoles résidentielles et amenées contre leur gré à l'Institut pour servir de cobayes au Dr Cameron.
Oh mon Dieu, j'espère que non.
Les allégations faites par les Mohawk Mothers reposent sur le témoignage de Lana Ponting, une ancienne survivante des patients du Dr Cameron, est une des dernières survivantes par ailleurs, qui affirme qu'il y avait des victimes qui n'auraient pas survécu au traitement et qu'elles auraient été enterrées sur le terrain de McGill. Parmi ces victimes, il y aurait eu des enfants d'âge mineur, mais une représentante pour McGill a nié la possibilité que des tombes anonymes se trouvent sur le terrain, puisqu'une enquête avait été menée sur le potentiel archéologique de l'Institut en 2016. Et suite à cette enquête, les experts avaient déclaré qu'il n'y avait que peu de chances que des dépôts humains soient dissimulés sur le terrain de McGill. Par contre, l'université s'engage à reconnaître publiquement la chose si des fouilles devaient prouver le contraire. Donc ça, c'est un dossier ongoing.
Je sais pas comment tu fais pour le savoir sans creuser.
Je sais pas si c'est dans les sols, s'il y a comme quelque chose
peut-être.
Comme une substance quelconque qui trahirait la présence d'une dépouille humaine.
Oui. Mais moi, je commencerais par dire « Of course que McGill va dire ça, puis on devrait creuser pareil. »
Ça ne m'étonne pas que McGill soit comme « Non! »
Merci de votre attention.
« Venez pas ici! »
Non, on n'a rien fait!
Oh my god, vous êtes tellement goth, hein?
Oh my god, ça fait comme vraiment longtemps, laissez-nous tranquille! Ça fait genre 50 ans! Oh my god!
Et bon, maintenant, pour les gens qui sont nerveux ou nerveuses, on a appris de nos erreurs, de nos jours, pour faire des expériences sur les humains. Vous devez obtenir l'approbation d'un comité d'éthique en recherche, un CER, que votre projet soit subventionné ou non. Donc, dès qu'il y a un aspect humain, vous devez passer par un CER. Donc, dès qu'un projet de recherche comporte une collecte de données qui met en cause directement ou indirectement des êtres humains, vous devez passer par un CER pour obtenir un certificat d'éthique qui doit absolument être obtenu avant même que vous commenciez. Donc, chaque CER est formé pour que soient réunies les connaissances, l'expertise et les perspectives qui favorisent une prise de décision éclairée et indépendante sur l'éthique des projets soumis. Chaque comité comprend deux membres qui possèdent des connaissances dans le domaine de recherche, un membre spécialisé dans le domaine de l'éthique, un membre spécialisé en droit dans un domaine pertinent et un membre de la communauté.
Okay.
Les membres ne doivent jamais se trouver en conflit d'intérêts par rapport au projet qui leur est soumis. Et c'est aux chercheurs de faire des demandes de financement auprès du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui va dire aux chercheurs sur quoi ils font leurs recherches.
Ben, tout ça, ça me rassure, mais ça me rassure pas tant que ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être du monde qui font pas ça.
Écoute, c'est ce que je voulais mettre quand même en conclusion, qu'il y a cette chose qu'on appelle le comité d'éthique en recherche, que vous devez être approuvé par eux, et si ce n'est pas approuvé, vous ne pouvez pas faire votre expérience. Je ne peux pas dire que des débordements, il n'y en aura jamais. Je peux espérer qu'il n'y en aura pas, et que tout le monde va être correct, et faites-vous vacciner, s'il vous plaît.
Oui. C'est une très bonne conclusion, ça. Félicitations à votre conclusion.
Oh.
Non, c'est très bon. Félicitations à votre bon programme, madame.
Merci, madame. Ça m'a fait plaisir de te raconter ça.
Non, mais merci, c'est très intéressant, puis c'est très triste, puis je suis très contente aussi que t'aies coupé dans les détails terribles de torture terrible, parce que t'en as pas dit beaucoup, mais j'ai comme fixé là-dessus, là, depuis le début, puis j'ai de la misère à penser à d'autres choses. Fait que ça va me hanter.
Je me suis dit que c'était pas nécessaire d'en mettre plus que ce qu'il fallait.
Ouais, des fois, il y a des affaires que t'as comme... Tu le sais pas que t'as pas envie d'y savoir, là, c'est ça.
Parce que moi, les affaires d'électrochoc puis tout ça, ça me terrorise.
Ça me fait pas mal peur. Moi, c'est l'affaire du casque de football là, qui est attaché sur ta tête, là. Moi, c'est ce bout-là qui...
Non, puis dans le podcast CBC Brainwashed, si ça vous intéresse, ils ont retrouvé des bandes du Dr Cameron où est-ce qu'on entend la voix qui répète sans arrêt. Et c'est-tu une voix de femme vraiment très prim and proper qui dit « Your family likes you. You are a nice person. » people like being around you. Je suis comme, ah, j'ai déjà envie de me pitcher par la fenêtre.
Oh my god!
C'est vraiment aliénant, là, comme la boucle. Puis en plus, ils admettent, oh, ils font une boucle, mais qui est pas forte en background du podcast, mm-hmm, pour que on sente un peu le extent, puis c'est insupportable. Puis même des fois, la phrase que les gens entendaient, c'était des choses que les patients avaient dit au docteur Cameron.
Mm-hmm.
Donc, il les répétait. Je me dis, je veux pas réentendre ce que j'ai dit. C'est terrible. J'essaye de passer au prochain appel.
Oh mon Dieu, c'est effrayant ce soir-là. Ouf. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas du tout satisfaisant comme conclusion, dans le sens où j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de justice là, pour ces pauvres personnes-là. Mais bon.
Non, puis même dans ses écrits, à un certain point, le docteur Cameron admettait lui-même qu'après avoir enlevé les pensées de la tête des gens, il savait pas comment les remettre.
Ben, tu y penses avant ça, cocoon. C'est bol.
Make it up as we go along. Ce que je veux pas qu'une personne qui me joue dans la tête fasse.
Non, pas en tout.
C'est correct que c'est dans la LNI, you can make it up as you go along, mais pas quand tu joues dans ma tête.
Non, c'est ça, c'est comme, ah, je vais prendre tous mes meubles, je vais les mettre sur le gazon d'avant, je vais mettre le feu dedans. Bon, ça, c'est comme, mais là, tu veux-tu acheter des nouveaux meubles? Ah, je sais pas comment. Ah, c'est épouvantable. I hate everything about this. Non, mais merci beaucoup pour ce cas qui va peut-être me faire des cauchemars, mais qui était très intéressant.
Ben, je m'excuse.
Oh, excuse-toi pas, c'est très intéressant. On espère que vous avez aimé ça à la maison. Si vous avez des anecdotes de MK Ultra que vous connaissez, vous pouvez nous écrire pour nous en parler, un peu de crime à gmail.com. Peut-être qu'un jour, on va faire un épisode spécial avec des témoignages.
De MK Ultra.
Écrivez-nous un peu de crime à gmail.com si vous voulez nous rejoindre. On est aussi trouvable sur le Facebook, @unpeudecrime, et sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Je suis toujours mélangée.
C'est correct.
J'ai toujours le goût de dire @unpeudecrime dans ton café sur Facebook. C'est pas ça. C'est juste un peu de crime.
On aurait dû pas se mettre cette difficulté dans la vie. Pourquoi on a fait ça?
Ben c'est tellement simple, c'est notre nom. C'est pas comme si on s'appelait @koalarouge29 sur Facebook.
On dirait une vieille adresse Hotmail.
Oui, c'est ça.
Koalarouge85.
Baby love koala @hotmail.fr.
Super cool, girl 2001.
Fait que... Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et sur Instagram. On a aussi une boutique Etsy dans laquelle on vend occasionnellement des choses. C'est ça, tout ce qu'on a à dire là-dessus. Donc, suivez-nous. C'est parce qu'on a eu des petits problèmes, là. On vous en a parlé en long et en large, là, avec Post Canada. Puis là, on cherche une autre manière de vous expédier notre belle marchandise. Et on va bientôt trouver des solutions pour toutes. Donc, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Écrivez-nous @unpeudecrime@gmail.com. Et si vous avez le temps, c'est vrai, c'est un bout qu'on l'a pas dit, allez nous évaluer sur... Vous pouvez nous évaluer sur Spotify, sur votre téléphone. Quand vous nous écoutez, ça vous demande combien d'étoiles vous mettriez à nous.
Plein d'étoiles.
Vous pouvez nous évaluer sur Facebook, vous pouvez nous évaluer sur Apple et tout ça, sur Apple Podcast. Et tout ça, ça nous aide à monter dans les charts. Puis nous autres, on veut vraiment monter dans les charts parce que notre but, c'est d'être number one dans les charts de toutes.
Number one au hit parade.
Number one au hit parade. Je sais pas pourquoi c'est ça notre but. C'est juste ça notre but. C'est là que s'arrête le projet.
On veut aussi avoir du fun.
On veut être number one, et une fois que vous serez number one, ah ben c'est ça, on va être number one. Puis on n'a pas d'autres projets au-delà de ça. Fait que allez nous évaluer pour nous donner... Non, mais pour vrai, ça nous aide à avoir plus de visibilité et à permettre à d'autres personnes de nous trouver.
Et par ailleurs, on a eu beaucoup de nouveaux abonnements dernièrement sur Instagram. Alors, ben on salue tous les nouveaux membres de la...
Oui.
Nouvelles membres de la communauté Un peu de crime. On espère que vous aimez ce qu'on vous donne. On espère
nous
que
allons tous les
fun.
Nommer maintenant. Marcel,
donc voici
Roger.
Les noms.
Donc voici les noms. Oui, c'est vrai, on en est sur Facebook aussi, c'est vrai. Fait que merci beaucoup de nous suivre. On dirait que le monde avait le goût de déprimer pendant le temps des fêtes, là, parce qu'on n'a pas sorti de nouveau matériel, mais le monde a commencé à nous écouter en fou.
Yes, on était là avec vous.
Ben, c'est génial. C'est génial, ça nous fait plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et on va se retrouver dans 2 semaines pour parler de d'autres choses qui ne seront possiblement pas Raël. Mais c'est correct, ça va aller! Je vais m'en remettre un jour! C'est la fin de notre épisode. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par cette saga nordique qui est District 31...
Saga de nuit du Nord!
C'est ici que ça se termine pour aujourd'hui. Mais sinon, on vous invite à rester pour notre chronique de fin d'épisode, les 2 minutes de Babine. Là, ça va faire comme... 20-quelques épisodes, là. Ça fait genre 25 épisodes au moins qu'on fait les 2 minutes de Babine, là. Vous êtes
habitués. Vous savez ce qui s'en vient.
chanter avec nous la chanson thème pendant qu'elle joue.
Dites-nous, est-ce que vous préférez notre chanson ou celle de District 31 avec la petite flûte à bec?
En passant, tout ce qu'on fait là, c'est comme c'est libre de droit. Hein? Si vous voulez, genre prendre un extrait de ça pour faire une sonnerie, là, puis voler le jingle des 2 minutes de Babine, vous avez le droit. Hein? C'est toute la musique libre de droit. Fait que,
allez-y. Gantez-vous.
Fait qu'on va commencer ça.
Yes, sir.
Fait que là, mon chum.
Vas-y.
J'ai une histoire compliquée à te conter.
Oh, attends, on va prendre un gros café, là.
D'attendre du SPGM. C'est parce qu'on compte tout le temps des affaires, nous autres, qui sont comme des... tu sais, des boucles fermées, là. Okay? C'est,
ouais.
C'est une petite histoire, ça se passe sur 2-3 épisodes. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de mixer la donne un petit peu. On va faire du méli-mélo. Oui, oh. on fait du méli-mélo au cheddar.
Qui est la meilleure sorte de méli-mélo. Ça fait longtemps que j'ai mangé ça, des méli-mélo.
Fait que aujourd'hui à la place, je vais tenter de vous conter les meilleurs moments d'une intrigue qui a duré 3 saisons.
Oh my god, best of!
Best of! C'est l'histoire qui tourne autour de Christian Faneuf.
Oh my god, best of Christian Faneuf.
Best of Christian Faneuf.
Sortez vos motos.
Christian Faneuf est un des chefs des motards. Bon, parce que c'est pas clair combien de chefs de motards qu'il y a, puis ils ont pas l'air d'avoir comme un organigramme très clair.
Pas de hiérarchie, c'est une co-op. C'est une co-op de motard.
Mais il arrête pas de dire ça, mais j'y crois pas une seconde. Ah, mais en tout cas, fait Christian Faneuf, bon, il travaille pour les motards. OK? Là, on va vous spoiler bien des affaires.
Mais attention, il y a des spoilers qui s'en viennent.
Il y a des méga spoilers qui s'en viennent. Christian Faneuf est là à partir de la première saison. OK? Dans la première saison, à un moment donné, quelqu'un de l'état-major met en charge une détective du district 31 d'enquêter sur de l'écoute électronique qui a été faite sur des politiciens et des membres de la police, des hauts gradés de la police.
Oh, ça, c'est pas correct, on fait pas ça.
Non, c'est ça. Éventuellement, toute cette histoire-là d'écoute électronique va culminer et mener vers une commission d'enquête, la démission de plusieurs personnes dans l'état-major, dans le cabinet du maire. Il y a tout plein de conséquences politiques, bim, bim, bim.
Oh my god.
Début de la deuxième saison. Ça va vite jusqu'à date, le soir avec Christian Faneuf.
Sans moi, il est peut-être de même.
Bang! Il n'y avait pas grand-chose d'autre à raconter pour la saison 1 pour Christian Faneuf. C'est plus dans saison 2 qui arrive. Saison 2. Il se passe quelque chose d'épouvantable qui a brisé le cœur de tout le monde qui regardait District 31. La lieutenant Nadine Legrand, que tout le monde trouvait donc belle et donc fine. Eh bien, elle l'était donc belle et donc fine parce qu'elle se fait frapper par une vanne.
Oh my god.
Et elle meurt. Et là... C'est là que commence l'enquête sur qui a tué le lieutenant Nadine Legrand. Nadine allait comparaître à la commission d'enquête sur l'écoute électronique et la corruption policière et la corruption politique et blablabla. Alors, quand les policiers du district 31 qui enquêtent sur la mort de leur propre lieutenant, ce qui est une affaire qui a pas tant de bon sens parce que c'est un gros conflit d'intérêts...
Je pense pas qu'ils peuvent faire ça.
Je pense pas. Fait qu'en tout cas...
En même temps, essaye d'arrêter Babine.
C'est impossible, il est inarrêtable cet homme. Fait que là... Ils vont enquêter là-dessus et éventuellement comprendre que les gens qui sont possiblement responsables de la mort de Nadine Legrand sont les motards. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Vas-tu me demander ça, partner?
Pourquoi? Why? Pourquoi?
Parce que toute cette histoire d'écoute électronique était liée aux motards.
Oh non!
Depuis le tout début.
Fait que là, la CIA nous écoute, le FBI nous écoute, les motards nous écoutent.
Les motards nous écoutent, tout le monde nous écoute.
Hey, je peux savoir la paix. Babine nous écoute.
Le gars du FBI nous regarde à travers la webcam présentement, tout le monde nous écoute.
On peut jamais sacrer.
Alors l'explication, c'est que Christian Faneuf, un des chefs des motards, il avait, avec l'aide d'un petit nerd d'informatique, développé un système pour faire de l'écoute électronique illégale.
Oh, ça, c'est pas correct, là.
Ça, c'est vraiment pas correct, là.
C'est là que c'est devenu le plotline préféré de Luc Dion.
L'écoute électronique illégale. Là, pendant très longtemps, les services secrets enquêtaient là-dessus. Là, je vous spoil absolument tout, là. Les services secrets avaient envoyé Laurent Cloutier, l'ancien lieutenant du district 31, comme agent d'infiltration, et il infiltrait les motards en faisant semblant qu'il était un ami à Christian Faneuf pour en fait ramasser de l'information sur lui.
Il faisait semblant de faire de la moto, là. Vroom, vroom, guys, c'est fun!
Il faisait semblant de faire de la moto, puis il habitait la maison en arrière de chez Christian Faneuf. En fait, la maison en arrière de la maison de la femme de Christian Faneuf, parce que c'était pas, était pas à son nom à lui, était au nom de sa femme. Pour que ça se dissimule. Sneaky sneak. Et là, les deux s'échangeaient de l'information sur des clés USB. Puis là, ça a pris comme un trois quarts de saison avant qu'on comprenne qu'est-ce qui se passait là-dessus. Puis en fait, ce qui s'échangeait comme fichier, c'était des fichiers d'écoute électronique illégale.
Oh my god!
Oui, parce que les SS, les services secrets, les SS ne sont pas les nazis dans le district 31, ce sont les services secrets.
C'est pas mélangeant pour deux.
C'est pas, fallait spécifier. Donc, les services secrets, eux autres, étaient au courant que Christian Faneuf développait un programme pour faire de l'écoute électronique illégale et essaie de le coincer là-dedans. Cette histoire-là de l'implication des motards allait sortir pendant la commission et c'est possiblement la raison pour laquelle les motards ont décidé de se débarrasser de Nadine Legrand. La belle Magali Lépine-Blondeau.
Non, pas Magali!
Oh! Non. Fait que là, tout ça est en train éventuellement de sortir. Puis là, la SQ enquête sur la mort de Nadine Legrand. Là, il arrête Laurent Cloutier. Laurent Cloutier est comme « je peux pas parler ». Mais si vous saviez pour qui je travaille, vous comprendriez que je peux pas parler. Puis c'est de plus en plus embourbé. Et éventuellement, grâce à des histoires de prête-nom, puis des affaires de sa femme possédait des choses comme illégalement au nom de, tu sais, en son propre nom, mais c'était des actions faites par Christian Faneuf, blablabla. Pour une raison boboche, ils réussissent à arrêter Christian Faneuf.
Shady Laurent Cloutier.
Et c'est surtout grâce à la triangulation et les téléphones cellulaires qui réussissent à le placer sur le lieu du crime de la mort de Nadine Legrand, tu sais.
Deuxième plotline préférée de Luc Dion.
La triangulation par les cellulaires. Et là, il se profile à l'horizon deux procès pour Christian Faneuf. Un premier pour avoir tué un lieutenant de police et un deuxième pour avoir développé un gogos d'écoute électronique illégale parce que là, maintenant, les agents des SS qui infiltraient Christian Faneuf sont tous connus. Il y avait Laurent Cloutier. Là, tout le monde sait que Laurent Cloutier est un agent infiltrateur des services secrets. Donc, okay. Laurent Cloutier est en danger. Donc, Laurent Cloutier est sous protection policière parce que les motards essaient de se débarrasser de lui. Et il y avait aussi une deuxième personne qui avait infiltré le crime organisé qui était Séraphin, dans Les Pays d'en haut.
Oh my god, Séraphin!
Oh my god, Séraphin! Alors, Séraphin, dans Les Pays d'en haut, avait infiltré les Sixers, avait dit à Christian Faneuf, « Moi, je peux te donner des millions de dollars pour développer ton programme. » Puis il ramassait de l'information sur son programme d'écoute électronique illégale. Fait que là, il y a un premier procès pour complot terroriste, puis un deuxième pour la mort de Nadine Legrand. Puis là, OK, on a enfin Christian Faneuf. C'est merveilleux.
Derrière bim, les barreaux. Bim.
On l'a derrière les barreaux, c'est génial! Puis là, Christian Faneuf est représenté par le maître Durand, qui est vraiment génial avec ses grosses lunettes, et là, à un moment donné, il reçoit, à la fin complètement de la deuxième saison, c'est ça, on est rendu là, il reçoit la visite de Séraphin en prison. Séraphin lui dit, écoute, on peut faire un deal avec toi si tu veux, on veut avoir l'écoute électronique illégale que t'as ramassée, parce que depuis des années, Christian Faneuf ramassait de l'écoute électronique illégale sur des politiciens, puis des gens très, très importants, puis des gens très, très influents.
Pis, comme des gros podcasts.
Des gros podcasts. Puis là, les services secrets veulent avoir ça, puis Christian Faneuf leur tend ça là, au bout d'un fil depuis une couple d'épisodes qui leur dit « Moi, je peux vous donner ça, faut qu'on fasse un deal. » Puis là, Séraphin dit « On peut faire un deal, on va lâcher les accusations de complot terroriste si tu nous donnes les enregistrements. » Puis après ça, Christian Faneuf est comme « Puis il est super content. Puis il va dire ça à son avocat, puis son avocat est comme « C'est pas vrai, ça. Ils ont pas le droit de te... Ils peuvent pas te promettre ça. C'est pas à eux de décider. »
Oui, les services secrets, c'est pas eux qui décident qui va en prison. Là.
Non, dans District 31, les services secrets sont une organisation qui kidnappe du monde pour les torturer.
Oui. En gros, ouais.
Parce que c'est pas mal comme ça qu'il avait fini par trouver Christian Faneuf. Il avait kidnappé des membres des Sixers, ils avaient torturé, puis ils avaient taisé jusqu'à temps qu'ils révèlent des affaires sur Christian Faneuf.
Ouais, ils vont continuer de faire ça dans les autres saisons aussi. Je vais pas te spoiler, mais ils continuent.
Ils continuent, les services secrets.
C'est leur modus operandi.
On va finir ici l'histoire de Christian Faneuf pour la première partie de l'histoire de Christian Faneuf, parce que c'est très long, comme vous avez pu voir. À la fin de la deuxième saison. Christian Faneuf a fait son deal avec les services secrets qui ne tiendra jamais la route.
Ils se sont serrés la main!
Mais il va être quand même en route vers un procès pour meurtre, pour le meurtre de Nadine Legrand. Tout le monde est très satisfait. Et là, il se fait transférer d'un centre correctionnel à un autre, dans un fourgon de police.
Parce qu'il n'y avait pas cellule assez grande pour lui.
Non! Ce qui était quand même
comme 8 pieds,
Christian. Il était quand même un tough Christian Faneuf. Il était pas si grand que ça, mais il était bien imposant.
Il fait pas peur.
Donc, il se fait transférer dans un fourgon de police quand tout d'un coup, un gros SUV force le fourgon de police à s'arrêter sur le bord de la route.
Oh non!
Et là, il y a 3 hommes qui sortent du fourgon de police et qui menottent avec des tie wraps, en fait, qui attachent le conducteur et le seul garde qui protégeait Christian Faneuf dans le fourgon de police.
C'est pas beaucoup.
En fait, qu'il le surveillait, parce qu'il fallait qu'il le surveille pour pas qu'il s'évade. Il fallait pas que surveiller pour pas qu'il y ait du monde qui rentre dans le fourgon. C'est très rare que ça arrive, ces affaires-là.
Il me semble qu'ils sont un petit peu short-staffed, mais c'est correct.
Ils sont un peu short-staffed. Et donc, les 3 hommes maîtrisent les 2 personnes qui étaient responsables de Christian Faneuf. Et là, Christian Faneuf, il rit. Il rit parce qu'il pense que c'est les maudits motards qui s'en viennent le libérer.
On s'en vient, mon chum!
Yes!
Il retourne dans la maison à terre.
Il pense ça jusqu'à ce qu'un des gars lui fasse signe de se mettre à genoux à terre et sorte un gun.
Whoops!
Et lui tire une balle dans la tête.
Tu retournes pas à maison à soir.
Et sur cet assassinat mystérieux se termine l'histoire de Christian Faneuf. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'ensuite on va passer une saison au complet à essayer de comprendre qui a bien pu tuer Christian Faneuf.
Mais où est donc Carnior?
Pourquoi a-t-on tué Christian Faneuf? Est-ce que les services secrets étaient impliqués? Est-ce qu'en fait les services secrets avaient demandé à Christian Faneuf de développer la technologie d'écoute électronique illégale? On est en train d'ouvrir une canne de verre.
Une grosse canne de verre.
Alors je vous ai raconté le début de l'histoire de Christian Faneuf.
C'est parti 1.
La fin va venir une autre fois.
Ah non, les services secrets dans District 31, c'est ben shady.
Je comprends pas pourquoi que les services secrets ont pas demandé à Luc Dionne d'arrêter de parler d'eux. Parce que c'est vraiment pas flatteur.
Non, des fois je me questionne sur les actual services secrets canadiens.
Je ne pense pas que les services secrets canadiens font juste kidnapper du monde pour les emmener dans des sols puis les taiser dans le cou jusqu'à temps qu'ils racontent des affaires comme Séraphin faisait dans cette saison-là.
Non, j'ose l'espérer, puisque dans Opération Caméléon, sur les ondes de Canal Famille, ça avait l'air le fun d'être un espion.
Oui! Mais non, Séraphin, il est ben blood dans District 31. De son vrai nom, Vincent Leclerc.
Oui!
On peut nommer le comédien quand même!
C'est un excellent comédien.
Ouais, non, c'est ça. Non, il est vraiment très cool. C'est un personnage vraiment intéressant. Puis quelqu'un qui travaille pour les services secrets. Puis, ouais, il se fait arrêter dans une descente de police.
Whoops.
Puis là, dans la descente de police, il signifie discrètement à Poupou qu'il est lui-même un policier.
Il fait un petit clin d'œil. J'étais avec toi.
Non, pour vrai, mais il lui signifie. Il dit quelque chose. Je me rappelle pas c'est quoi, mais il dit quelque chose. Puis après ça, tout le monde est vraiment confus. Puis ça prend du temps à ce que les gens comprennent. Puis c'est comme, il a dit ça parce que c'est un policier. Puis là, il essaie de chercher c'est qui, mais il a pas donné son vrai nom, bien sûr, parce qu'il a donné son nom d'agent double. Il a donné son nom d'agent d'infiltration. Fait qu'il y a personne qui réussit à le trouver dans le système. Puis là, les gens se demandent c'est qui, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, c'est parce que c'est pas son nom, il est dans un service secret.
Il dit le mot de passe à Poupou.
Il dit qu'il s'appelle Séraphin. Puis là, ils cherchent Séraphin, puis ils sont comme, il y a pas de Séraphin dans la police. Mais Séraphin était son nom d'agent d'infiltration. Donc, c'était ça l'histoire de Christian Faneuf qui s'est fait infiltrer par les services secrets, qui se faisait surveiller parce qu'il développait de la technologie pour écouter les gens.
Toute une histoire qui continue encore dans saison 5.
Ça n'en finit plus de finir, cette maudite histoire de Christian Faneuf. Puis là, à travers ça, il y a tout plein de side stories super intéressants à propos de l'histoire de l'écoute électronique. Parce que très honnêtement, là, entre toi et moi, là, Audrey, on a déjà parlé pas en ondes, là, mais les intrigues au quotidien de District 31 sont parfois complètement tweet, mais les intrigues qui traversent les saisons sont bien construites, puis vraiment surprenantes. Là. Il y a tout le temps des revirements, puis honnêtement, c'est vraiment bien... développé, tu sais. Fait qu'il y avait plein de petites histoires de Christian Faneuf. Bien sûr, ça avait plein de répercussions. Son histoire d'écoute électronique illégale, il y a des scandales politiques, il y a toutes les histoires avec sa femme aussi qui se fait arrêter justement parce qu'elle possède des compagnies à numéros qui sont en fait les compagnies qui appartiennent aux motards. Puis tu sais, il y a plein d'affaires super intéressantes que je pourrais vous conter. Mais une autre fois, là, j'ai mis la table pour Christian Faneuf. Et pour finir, j'aurais dû le dire au début, mais pour finir, on peut faire une petite description.
Ouais.
Christian Faneuf, c'est un homme d'à peu près 55 ans.
Très musclé.
Les avant-bras tatoués. Il aime beaucoup porter des chandails combines très moulants. Puis il a les cheveux très courts.
Mais le chandail combine moulé dans District 31 pour les hommes, c'est un must!
C'est un must, absolument. C'est bon pour toutes les saisons, même quand t'es en prison.
Poupou aussi, il le donne vraiment souvent, puis je suis pas contre. Je suis vraiment pas contre.
Mais c'est ça, Christian Faneuf a l'air de quelqu'un que t'as pas le goût de le couper quand tu conduis sur l'autoroute.
Oh non! Non!
Il fait vraiment très peur.
C'est une excellente
description. Le comédien est excellent. Puis, ouais. Fait que voilà, c'était mon introduction à Christian Faneuf.
Ta-ta-ta!
Le crime lord that was. Not anymore.
That is no more. Ah ben, no more. Merci mon chum de m'avoir raconté toute cette histoire-là.
Ça m'a fait plaisir, mon chum.
Et ils font peur, les motards.
Ben, ceux dans le district 31, il y en a qui font pas peur, là, comme Bull puis Mitaine, mais à part de ça, les autres font peur. On parlera de Bull puis Mitaine la prochaine fois.
Oh, Mitaine. Mm. Donc ben, 10-4, mon chum.
10-4, partner.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.